Emmanuel Devaux, vous êtes anthropologue, ethnologue, américaniste, directeur d'études à l'HESS, et vous avez dirigé et coordonné la réalisation de cet ouvrage que nous présentons ici, aux sources des tristes tropiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de ce projet? Pourquoi parler encore des tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss?
Cher Victor Rosenthal, la réponse, elle est dans le sous-titre du livre. Les carnets de terrain de Claude et Dina Lévi-Strauss, 1935-1939. Car en fait, tous ces documents, ces carnets de terrain, ces photos, ces fiches sur lesquelles on va revenir, on va détailler les choses, mais ont été déposés à la Bibliothèque nationale juste avant la mort de Claude Lévi-Strauss en 2008. Et j'avais eu l'occasion de travailler sur des archives de Lévi-Strauss et donc j'avais rencontré Monique Lévi-Strauss, sa veuve. Et à un moment, on était ensemble et elle me dit « Écoutez, Emmanuel, ça serait bien de pouvoir éditer, publier les carnets de terrain de mon mari. Vous savez, il y a beaucoup de chercheurs qui me sollicitent. Ils aimeraient pouvoir avoir accès à ces données. Bien sûr, je donne quelques autorisations parce que c'est elle qui a les droits sur ces documents. Mais ça serait bien que ça soit publié. » Alors, moi, je me dis, oui, bien sûr, ça serait très, très bien. Je vous suis, madame Lévi-Strauss. Monique, parce qu'il fallait qu'on soit très intime. Donc, il fallait l'appeler Monique. Donc, Monique, on va faire ça. Et puis, on a eu l'idée que ça serait bien d'avoir un amazoniste aussi pour travailler sur ces documents, puisque ça concerne... le Brésil, ça concerne non pas tout à fait l'Amazone, mais en quoi qu'il y a une partie qui concerne l'Amazonie, mais ça concerne aussi le Mato Grosso. Donc on s'était dit, ça serait très bien de pouvoir faire une collaboration entre moi, qui connais bien l'œuvre de Lévi-Strauss, américaniste, mais je ne suis pas un spécialiste du Brésil, je suis nord-américaniste, j'ai travaillé au Canada. Et puis, ça serait bien de s'associer avec un pur brésilianiste, en quelque sorte. Et on parlait de Hugh Jones, professeur Hugh Jones, qui est un grand anthropologue anglais, à la retraite aujourd'hui, donc à la retraite, disposant d'un peu de temps, peut-être, et qui serait prêt à s'engager dans le projet. Donc, on se donne rendez-vous. Madame Lévi-Strauss, Hugh Jones, moi-même et la conservatrice en charge de ce dossier des archives de Lévi-Strauss, Anaïs Dupuis-Olivier. Et on rentre dans cette salle un peu annexe, rue de Richelieu, et Anaïs commence à nous sortir les documents, oui, documents de terrain. Il y a une boîte là, puis encore une boîte. Et puis encore une boîte. Ah, mais il y a encore une boîte. Et elle nous sort à peu près, je dirais, une dizaine de boîtes d'archives. Et on ouvre ces boîtes, et ces boîtes sont toutes avec des documents très hétérogènes. On commence à les regarder. Il y a effectivement des carnets, des notations. Les photos sont gardées à part. Mais il y a surtout des carnets, mais aussi des feuilles volantes, des dessins, beaucoup de dessins, des partitions musicales, des choses très, très hétérogènes. Et au cœur de ça, d'ailleurs, il y a un carnet relié, parce que les autres sont reliés, déreliés. C'est un peu le foutoir, pourrait-on dire, de façon un peu familière. Mais il y a un carnet très bien relié. Et Anaïs nous dit, mais ça, c'est le journal de Dina Lévi-Strauss, l'épouse de Claude Lévi-Strauss à cette époque-là. Ça, c'est quelque chose à part sur lequel on va revenir, j'imagine. Mais pour le reste, il y a toute cette abondance de documents. En fait, il y avait 4000. On a calculé ensuite qu'il y a à peu près 4000 pages. Et c'est une double révélation. Double révélation parce que Lévi-Strauss a toujours entretenu l'idée que sur le terrain, il était un peu désinvolte. C'était pas vrai. C'est le terrain. C'est quand il était chez les Dambiquara ou chez les Bororo, les Kadouveo, il avait fait ce... Bon, il prenait quelques notes, mais enfin, il a toujours entretenu sa légende d'un homme, d'un ethnographe, comme on dit dans notre métier. L'ethnographe, c'est celui qui est sur le terrain et qui note les choses précisément. Donc, d'un ethnographe un peu amateur, un peu pas du tout ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là, c'est des notations, des mots, des listes de mots, des descriptions, mais des descriptions brèves de situations, comment on tient un arc, comment on tend telle chose. On voit des schémas, des croquis. C'est des schémas de parenté. Vous savez que pour les anthropologues, les relations de parenté sont très importantes. Donc il y a abondance de schémas de parenté avec des termes de parenté. Et on dit, mais c'est énorme. On va pas pouvoir faire ça tout seul, ni vous, monsieur Hugh Jones, ni moi-même, on va pouvoir traiter ça tout seul. Et en plus, on s'aperçoit tout de suite d'une difficulté supplémentaire, c'est que toutes ces notes, tous ces carnets ne sont pas datés. Donc il n'y a pas de date. Or, quiconque fait de la recherche, hein, les ethnologues, mais pas seulement eux, tout le monde doit garder un journal de son enquête, c'est-à-dire noter jour par jour, parfois même certains sont un peu pointilleux, mettre heure par heure, ou peut-être pas forcément aller jusqu'à là, mais au moins mettre dater le ce qu'on fait, quoi, les enquêtes, les informations, quand à quel jour on les reçoit, on les collecte et on les reçoit.
Or, il n'y a pas de journal, en tout cas de Claude Lévi-Strauss.
Il n'y a pas de journal de Claude Lévi-Strauss,
mais il y a le journal de Dina,
C'est une double révélation, en quelque sorte. Et là, on sort de là, de cette première présentation des documents, et on conclut que ni moi, ni Hugh Jones, ni même nous-mêmes, tous ensemble, on pourra mener à bien ce projet. Je rentre dans mon bureau, et puis cette question me tarabusque pendant quelques mois, quelques semaines. Et à ce moment-là, apparaît sur mes écrans le lancement d'un programme annuel de l'ANR. Alors l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Et c'est une branche du CNRS qui finance des projets de recherche sur projet, précisément, avec un thème précis, avec une équipe précise. Et là, j'ai comme une sorte de révélation ou d'illumination, j'irais même presque dire, la solution, c'est de constituer une équipe de jeunes chercheurs et de dépouiller ces documents un à un grâce à un financement de l'ANR. Et nous montons cette ANR et grâce à vous, entre autres, mais d'autres collègues, nous construisons en quelque sorte un projet et ce projet est accepté et financé.
Est-ce que vous pouvez présenter cette équipe puisque ce sont aussi les auteurs qui participent à cet ouvrage?
Oui, alors cette équipe est constituée, disons, au niveau des chercheurs un peu expérimentés, de Michel de Fornel, qui est un linguiste, de moi-même, de Léo Wetzel, qui est aussi un professeur à l'université d'Amsterdam et qui est un spécialiste des langues du Brésil. Et puis, il est aussi, pour l'essentiel, et puis il est constitué d'une jeune garde, de jeunes chercheurs qui étaient pour l'essentiel des doctorants, dont je dirigeais les thèses à l'époque. Certaines thèses étaient déjà terminées, d'autres étaient en cours, et qui est essentiellement constitué de Camille Riverti, de Constantino Nicolizas et de Paolo Gioga. Et c'est vraiment cette équipe qui a fait le travail, qui a porté ce projet. Bien sûr, je l'ai coordonné, j'étais là tout le temps, mais on a tous travaillé ensemble. Et c'était un très grand bonheur, je le dis franchement, de travailler avec ces jeunes chercheurs.
Alors, ce qu'on remarque quand on commence à feuilleter cet ouvrage, c'est que c'est peut-être un ouvrage savant, mais c'est aussi, dans une large mesure, en quelque sorte, un album et comme un atlas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça ?
Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est un livre qui cherche en quelque sorte à couvrir le spectre de ce qu'on peut éditer entre les études et les réflexions assez pointues et assez spécialisées, et puis une approche beaucoup plus orientée vers le grand public qui relate l'aventure. Intellectuelle, mais aussi une aventure mondaine, une aventure intime des protagonistes, essentiellement donc Claude et Dina Lévi-Strauss. Et ça, ce qui nous a permis d'ouvrir en quelque sorte, c'est d'abord la collaboration avec les éditions de l'EHESS elles-mêmes, qui ont été très séduites par le projet. Et c'est le fait même qu'on a retrouvé dans les archives, en parallèlement au aux notes de terrain elles-mêmes, on a retrouvé toute une série de photos que Lévi-Strauss avait déposées en même temps à la BNF et auxquelles on a eu accès, et qui nous a permis de donner une dimension iconographique très forte à cet ouvrage-là. Lévi-Strauss est un formidable photographe.
Et dessinateur.
Et dessinateur.
Et ses croquis sont remarquables.
Voilà, exactement. Donc il y a une continuité, si vous voulez, c'est ça qui est fascinant dans ces archives et qu'on a essayé de reconstituer dans ce livre. C'est cette continuité entre la pure écriture, le dessin et la photo. Il y a une sorte de continuité du graphisme à l'iconographie qui est tout à fait remarquable. Et on a, alors ça, c'est la deuxième partie du travail. J'anticipe un peu, mais il faut le dire, c'est la deuxième partie du travail qui était proprement éditoriale. On a vraiment collaboré de très très près avec l'équipe des éditions de l'EHESS et avec notamment la graphiste Anne Koulmic-Renaud, avec elle, on a vraiment fait un livre dont on a vraiment voulu qu'il soit un livre, qu'il soit un beau livre, qu'il soit non seulement un livre intelligent, non seulement un livre qui livre des informations inédites, mais qu'en réalité, il y a aussi une qualité esthétique en magnifiant en quelque sorte le potentiel que représentait le corpus de photos que Lévi-Strauss avait aussi légué à la BNF au même moment.
Donc un bel ouvrage à feuilleter, mais il y a aussi la part géographique. Alors, qu'on peut résumer aussi. Il y avait aussi deux participants, je crois, Paolo Gioga et Costantino Nicolasis, qui ont refait le parcours de la deuxième expédition tout récemment, et illustrait et documentait ce parcours au sein de cet ouvrage.
Oui, c'était l'une des idées qui a dirigé aussi, c'était de reconstituer en quelque sorte le périple lui-même. C'est-à-dire que Lévi-Strauss, notamment dans sa deuxième, lors de sa deuxième expédition, lors dans Triste Tropique lui-même, comme on l'a dit, ses notes ne sont pas datées, et on en reparlera peut-être pourquoi, mais dans Triste Tropique lui-même, il est très évasif sur la chronologie, très très évasif. Il est assez évasif d'ailleurs sur même le parcours qu'il a suivi, mais il est encore plus sur la chronologie. Donc il nous a paru peut-être pertinent d'envoyer ces deux jeunes chercheurs, Paolo et Costantino. Et de les envoyer de nouveau sur le terrain, de refaire le périple qu'avait fait Lévi-Strauss plus de 80 ans avant. Et je pense que c'est 90 ans maintenant, et presque. Et ça a été une expérience très, 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 très émotionnelle, très forte pour eux. Et ça nous a permis aussi de mieux baliser, en quelque sorte, le parcours tel qu'il avait été fait. Et Costantino a fait un travail énorme, hein, pour reconstituer pratiquement jour par jour le périple qu'avait fait Lévi-Strauss et son équipée, parce qu'il n'était pas tout seul, hein, à travers le Mato Grosso en 1938-39. Et ça, c'est aussi, je pense, que le fait d'avoir lui-même fait ce parcours lui a mieux permis de comprendre, bien qu'évidemment, les conditions ont totalement changé. Hein. Du temps de Lévi-Strauss, c'était une caravane avec une trentaine de bœufs qui traversaient les savanes du Mato Grosso, et puis après qui rejoignaient le bassin pluvial de l'Amazonie et qui embarquaient sur des pirogues. Mais je reste persuadé que c'était aussi une espèce de catharsis très, très importante pour ces jeunes chercheurs de revivre en quelque sorte à leur façon, dans un 4-4 d'aujourd'hui, cet itinéraire. Et surtout, ça leur a donné l'occasion de prendre des contacts avec les descendants ou des Kadouvéo que Lévi-Strauss avait rencontrés, des Nambikwara que Lévi-Strauss avait rencontrés. Ils n'ont pas pu rencontrer les Bororo, mais ils ont au moins rencontré les Kadouvéo et les Nambikwara, et ils ont été bien accueillis, très bien accueillis.
Alors, revenons maintenant aux questions plus techniques. Vous avez dit que ces archives ont été un petit peu en vrac. Les notes mises en vrac dans des cartons et des notes non datées. Et comment a-t-on fait pour les revoir, pour les dater, pour retrouver la chronologie, réutiliser ces notes?
Alors, ça a été une opération très très complexe qui, pour l'essentiel, c'est Costantino qui s'est chargé de ce volet du projet. D'abord, tout a été numérisé à la BNF dans le cadre du programme ANR. Ensuite, Costantino a transcrit toutes les notations et il n'a pas réussi vraiment à tout dater, mais en comparant ses notes et en comparant aussi les notes avec Casto Farias, qui était l'anthropologue brésilien qui avait accompagné Lévi-Strauss dans cette expédition, il a fait des recoupements et il a réussi jusqu'à un certain point. Et puis pour la première partie de l'expédition, comme on l'a dit, Dina Dreyfus avait tenu un journal. Donc, en croisant toutes ces informations, il a plus ou moins réussi. Et je pense qu'il a, c'est pas absolu, mais on a beaucoup avancé de ce point de vue-là, à reconstituer la chronologie de l'expédition, pratiquement jour par jour, et de voir à quel moment telle information a pu être recueillie sur terrain auprès de telle ou telle population, parce que sur cette deuxième expédition que fait qu'entreprend Lévi-Strauss, c'est les Nambiguara qui sont restés les plus célèbres, parce qu'ils occupent une place aujourd'hui très importante dans la réflexion anthropologique. C'est une sorte de totem pour les anthropologues, les Nambiguara. Mais il y a d'autres populations qu'il a rencontrées à cette occasion, les Mundé, les Tupi-Kawaib, et qui sur lesquels aussi on a recueilli des éléments.
Alors, mais à cette occasion, on a aussi découvert des absences.
Alors, on a découvert des absences et c'était effectivement l'une des grandes révélations. L'absence de date, on l'a dit, mais il y a une autre absence, c'est que évidemment, quand moi je me suis engagé dans ce projet, quand Madame Lévi-Strauss m'a dit, écoutez, Emmanuel, vous devriez vous en dépouiller toutes ces données, et je me suis dit, ah ben, c'est super, et je vais retrouver chez les Nambiguara, je vais retrouver les notes de terrain qui attestent de ces deux grands moments qui, comme je l'ai dit, sont des moments totémiques pour la réflexion anthropologique. C'est d'une part ce moment où deux bandes de Nambiguara, plus ou moins amis, plus ou moins ennemis, se jauge, elles sont dans la savane, c'est un peu, on se demande un peu comment ça... Et Lévi-Strauss nous raconte que finalement, ces deux bandes auraient pu s'affronter, auraient pu sortir leurs arcs et leurs flèches et se flécher les uns les autres et tout ça, comme ça se fait. Faisait, ça existait, c'était des réalités. La guerre amérindienne est une réalité, mais que, semble-t-il, ce jour-là, ces deux bandes ont préféré rentrer dans une relation d'échange et ont préféré en quelque sorte l'échange à la guerre.
C'est ce qu'il écrit dans Triste Tropique.
Oui, c'est ce qu'il écrit. Donc moi, je me dis, je vais trouver dans les notes cette scène originelle, cette ours-scène, comme disent les anthropologues. Et puis, il y a un autre moment très, très important qui est resté aussi dans la réflexion anthropologique, toujours chez les Nambiguara, et toujours dû à la plume de Lévi-Strauss, c'est le fait même que, là encore, l'ethnologue est là, il écrit sur son carnet, et puis le chef des Nambiguara se penche sur son carnet et comprend que l'écriture, c'est le pouvoir, et demande donc à Lévi-Strauss de lui donner un carnet et lui donner un crayon pour que lui aussi puisse écrire. Et donc, comme le dit Lévi-Strauss, le chef Nambiguara, Giulio, va écrire des vermicelles. Il va couvrir la page de vermicelles, comme ça. Et parce que l'intuition, en quelque sorte, de Giulio, c'était que le pouvoir résidait dans l'écriture. Autre grande réflexion lévi-straussienne qui a hanté des générations d'anthropologues, et même dont on peut vraiment dire que c'est probablement l'une des grandes sources d'inspiration de Michel Foucault sur sa conception du pouvoir comme étant une appropriation des moyens de transcrire les choses et de dominer les choses par l'écriture. Donc, on va retrouver aussi cette scène, cette deuxième scène primitive, et là encore, dans ce déception, on va le dire. Déception, on ne retrouve pas ces deux scènes. Alors, ça nous a un peu ébranlé et on s'est dit, mais c'est quand même étrange. Donc, on a commencé à comparer vraiment de très près le texte de Triste Tropique et celui de et ce qu'on avait dans les archives. Et là, on s'aperçoit de quelque chose de très très étonnant, c'est que les parties les plus littéraires, les plus narratives, descriptives de Triste Tropique, dont sensiblement c'est très clair que elles avaient un substrat écrit, c'est-à-dire que il réécrivait quelque chose quand il écrivait ses pages, description de paysages et autres, eh bien, on les retrouve pratiquement pas dans ses notes ou presque pas. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on est allé voir Madame Lévi-Strauss, on a parlé avec elle, et on dit, et parce qu'il y a une autre absence aussi dans Triste Tropique, disons-le aussi, c'est Dina elle-même. On reviendra là-dessus. Mais je vais quand même combiner un peu les deux commentaires là-dessus. C'est que Madame Lévi-Strauss nous dit que oui, quand mon mari écrit Triste Tropique, nous venons de nous marier quelques mois précédemment, et c'est vrai que je suis à côté de lui et nous travaillons ensemble et il tape à sa machine et il me donne les feuillets et au fur et à mesure de son écriture, je suis sa première lectrice et ce qui explique peut-être qu'il ne parle pas beaucoup de Dina dans Triste Tropique, ça peut se comprendre. Et Madame Lévi-Strauss en a convenu. En revanche, il nous dit aussi, mais vous savez, mon mari jetait beaucoup de choses. Mon mari, il écrivait, mais et puis et on a fait un peu la corrélation qu'en réalité, ce qui recyclait dans le Triste Tropique, ces notes de voyage, qui étaient recyclées directement, mais pas tout à fait directement. On va revenir là-dessus peut-être. Était en fait, il pensait que ça avait plus de valeur quoi. Et ce qui reste dans les archives, c'est plutôt toute la partie proprement scientifique qu'il n'a pas pu intégrer dans Triste Tropique parce que Triste Tropique était un livre qui s'adressait à un large public. C'était la commande qu'avait fait Jean Mallory à Claude Lévi-Strauss, et donc il ne pouvait pas rentrer dans des détails trop spécifiques, il pouvait pas faire des descriptions de termes de parenté trop sophistiqués. Enfin bref, il y avait un aspect technique du métier d'anthropologue qui ne pouvait pas trouver sa place dans le livre qui devait rester un livre accessible à tous. Et donc il a gardé dans les archives précieusement pour les générations futures le contenu scientifique de ses recherches, de son ethnographie, et il semble qu'il ait fait un tri assez expéditif des autres parties de ses notes de terrain, de ses carnets de route, comme il le dit lui-même d'ailleurs, et que cela, il les a recyclés. On va peut-être voir comment un peu plus tard dans Triste Tropique, et après il les a détruits, ce qui est quand même assez étonnant, mais on est arrivé à cette conclusion parce qu'il n'y en a pas de traces ou très peu de traces. Et ça ne peut pas s'expliquer autrement.
C'est-à-dire, et cet argument que vous utilisez dans le livre, étant donné que le livre a été écrit très rapidement, il est peu probable qu'il ne s'est pas servi des pages entières déjà assez bien écrites.
Absolument.
Qui n'a pas incorporé des textes déjà.
Absolument. Et là, c'est un peu aussi contre certains. Ça va un peu à l'encontre de certains exégèses qui ont dit le Triste Tropique, l'exercice de la mémoire, réminiscence proustienne. C'est en partie vrai, mais il faut quand même se rendre à la réalité. Des pages entières de Triste Tropique sont pas des copie exacte, mais s'inspire très très directement et reprête très très directement des éléments des carnets de route. Et là, on a une petite anecdote très drôle, parce que comme on vient de dire qu'ils ont été détruits, c'est très difficile de faire des recoupements. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et il y en a un qui est très drôle, c'est-à-dire que à la fin de son... Quand ils sortent du Mato Grosso, ils arrivent en Amazonie, et à la fin de son périple dans le Mato Grosso, les conditions devenait un peu difficile, il n'y avait plus grand-chose à manger. Enfin bref, c'était... Et puis l'Amazonie, ça devient un univers un peu plus rutilant, un peu plus... qui offre plus d'opportunités, notamment culinaires, parce qu'on peut... On peut chasser, les bistros aimaient beaucoup la chasse, et il y avait plus de ressources. Donc, il, dans son dans Triste Tropique, il nous raconte un peu ce premier repas amazonien et qui était un repas un peu d'abondance avec un certain nombre de gibiers, surtout des gibiers d'eau, matinés au grillé au whisky, flambé au whisky, nous dit-il. Voilà, et c'est un super repas. Et il y a six plats comme ça. Et on retrouve là, on retrouve l'original. Et subrepticement, il a rajouté dans la liste des plats qui faisaient ce festin de retrouvailles avec la belle vie, en quelque sorte, il a rajouté queue d'alligator grillé. Et c'est une facétie, c'est un clin d'œil à la fiction. C'est un parce qu'en réalité, ce n'est pas dans le carnet original. L'un des rares carnets. Page de carnet qu'on a retrouvé où il y a correspondance, on voit que en fait il a transposé, il a rajouté
parfois d'autres événements. Voilà, qui est situé ailleurs.
Voilà, et ça aussi, il y a aussi ce phénomène là aussi. On a retrouvé en fait dans la chronologie, il truche un peu sur les choses qu'il a recueillies ailleurs. Il les met notamment en propos du folklore. Il y a beaucoup de très belles pages dans Triste Tropique sur le folklore des caboclos, hein, les folklores des Brésiliens, et là aussi il s'est permis quelques petits réaménagements, aussi bien chronologiques dans la chronologie que même avec les faits eux-mêmes, quoi.
Alors revenons maintenant à des parties un peu plus scientifiques de ces carnets, de ces 10 cartons plus d'autres choses, plus des photographies que vous avez retrouvées, parce que dedans il y a aussi des choses autres, à savoir et des indications sur les origines de la pensée de Lévi-Strauss. À ce moment-là, il n'est pas encore structuraliste. Il est plutôt diffusionniste, comme vous expliquez, et vous trouvez des éléments, je crois, dedans pour détailler. Et l'autre partie, c'est qu'on découvre que aussi un travail linguistique, lexicographie, plus exactement un dictionnaire, Nambiquara, qu'il a préparé. Alors,
oui,
ce sont donc des parties qui ne figurent pas dans Triste Tropique, mais qui font partie de cette exposition.
Absolument.
De ces expéditions.
Absolument. Il y a deux choses. Alors, le diffusionnisme, en fait, c'est... les expéditions, il est arrivé en 1935. Lévi-Strauss arrive au Brésil en 1935 avec son épouse. En fait, il avait lu très peu d'anthropologie avant d'arriver. Il était formé à la philosophie, comme on le sait, au droit, et il s'était formé à la sociologie durkheimienne, puisque d'ailleurs, il avait le rôle d'être un professeur de sociologie à l'université de Sao Paulo. Mais sur place, très clairement, il est pris par le virus de l'anthropologie, et c'est ça qu'il veut faire, et c'est un autodidacte en anthropologie. Et à l'époque, en anthropologie, si vous voulez, vous avez deux grands courants. Vous avez le courant évolutionniste et le courant diffusionniste. Le fonctionnalisme anglais est en train de monter en puissance, mais il n'est pas encore ce qu'il a été. Donc vous avez ces deux grands courants. Et Lévi-Strauss, d'emblée, prend pour option d'être un diffusionniste. Car le diffusionniste lui paraît beaucoup plus rigoureux dans sa méthode que l'évolutionniste qui travaille sur des spéculations, sur d'éventuelles évolutions de l'espèce humaine, alors qu'on a très peu d'éléments sur les étages antérieurs. Diffusionniste, il faut rappeler un peu qu'est-ce que c'est comme technique, comme méthode, comme philosophie. Il s'agit de comparer au mieux tous les éléments d'une culture, sans spécialement les hiérarchiser, sans aussi bien la culture matérielle, la culture intellectuelle, les mythes, les rites, que les éléments d'organisation sociale, de découper en quelque sorte la culture en tranches, on peut le dire, et de comparer entre différents groupes. Qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui n'est pas commun, qu'est-ce qui est éventuellement, quelle forme dérive d'une autre ou quelle forme est antérieure à une autre. Donc, et c'est une méthode qui, à l'époque, pour Lévi-Strauss, apparaît comme la plus rigoureuse qui soit. D'ailleurs, il fait une petite conférence que j'avais publiée dans un livre qui s'appelle « De montagne à montagne ». C'est ça qui m'avait d'ailleurs mis un peu la puce à l'oreille sur cette question, qui est un pur traité de diffusionniste. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ça qu'on doit rechercher, l'anthropologue doit rechercher. Et il faut le dire, parce que c'est quelque chose qui est aussi qui ressort de notre exploration des archives et qui est largement complètement oublié, c'est que le diffusionnisme est compatible avec l'anthropologie physique. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée qu'on peut comparer les phénotypes comme on peut comparer les traits culturels. Et que les deux devaient, la comparaison des deux devait rentrer en résonance. Et comme, de l'autre côté, on devait comparer les langues et trouver une généalogie des langues. Donc ça fait un programme, en fait, qui est assez cohérent pour l'époque, c'est où on compare les phénotypes, les cultures et les langues.
Et la part géographique aussi.
Et donc leur répartition géographique. Leur répartition dans l'espace, bien entendu. Il y a cette dimension spatiale qui est très, très importante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Lévi-Strauss a cautionné l'anthropologie physique. Et Dina, son épouse, on va en reparler, s'est consacrée à des mesures de crâne. On a des photos, c'est bien documenté. Donc on a ressorti un peu quelques clichés qui illustrent ça, où on voit effectivement, il y a des petites mesures, des petits numéros, il y a des appareils très sophistiqués, toute proportion gardée, mais des instruments qui étaient très sophistiqués à l'époque, et dont certains, d'ailleurs, étaient pour l'essentiel produits en Allemagne. Mais et on sait que Lévi-Strauss, après la guerre, va être complètement contre l'anthropologie physique. Il va la rejeter complètement. Ça va être, on comprend bien les raisons pour lesquelles il va le faire, mais je pense qu'il le fait d'autant plus après-guerre qu'il l'a pratiqué avant-guerre, qu'il se rend compte
s'y essayait lui-même.
Il se rend compte de l'inanité que ça représentait. Donc ça, c'est une des choses qui est, donc c'est le pan oublié de sa première initiation à l'anthropologie. Et d'un autre côté, effectivement, notamment chez les Nambikwara, mais partout dans tous les groupes où il passe, il prend des notes, des listes de mots, et il essaye de rentrer dans la langue, quoi. Mais il essaye vraiment de le faire chez les Nambikwara. Et donc, un énorme. Donc, il accumule les notations d'ordre linguistique.
Donc, il y a des fiches de vocabulaire.
Voilà. Et ce qu'on ignorait totalement, ça, c'est une véritable découverte qu'il a. Lui-même l'a complètement oublié ou l'a complètement occulté, c'est que probablement pendant la guerre, en 1941-42, lorsqu'il était à New York, parallèlement à la rédaction des structures élémentaires de la parenté, il avait l'ambition de faire un lexique et une grammaire nambikwara. Et là, grâce à un travail de collègue Michel de Fornel et de Léo Wetzel, on a très bien vu que il voulait vraiment le faire. Il a fait des fiches de vocabulaire, elles sont encore là, elles sont à la BNF, et il a buté sur la difficulté. Alors Léo Wetzel nous a dit, Lévi-Strauss n'a pas eu de chance parce que le nambikwara est probablement l'une des langues amérindiennes parmi les plus difficiles. Et Dieu sait si elles sont difficiles en règle générale. Donc on peut comprendre qu'il est buté sur la difficulté. Il a aussi buté sur la difficulté parce que probablement il n'était pas très bien formé à la linguistique. Et puis ensuite, les paradigmes théoriques de l'époque étaient insurmontables par rapport, ou incompatibles en quelque sorte, avec les documents qu'il avait accumulés. Mais c'est clair que Lévi-Strauss, à un moment, s'est vu ethnolinguiste. C'est clair qu'il voulait avoir cette ambition de maîtriser, de devenir un linguiste. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense que l'œuvre majeure de Lévi-Strauss, les mythologiques, qui sont donc ce vaste projet qui consiste à rassembler tous les mythes du Nouveau Monde, à expliquer et à travers eux de donner une lecture de la culture, des cultures amérindiennes, eh bien, on peut se dire que s'il a buté sur la langue, il va s'emparer en quelque sorte du mythe et d'un métalangage, en quelque sorte, et il va construire sa réflexion à partir non pas de la langue, qui lui reste comme un obstacle, mais à partir des mythes. Et il y a une logique aussi dans cette transmutation de la linguistique à la mythologie comparée.
On peut s'imaginer aussi que la Deuxième Guerre mondiale a bouleversé un petit peu ce projet de vie, ce projet scientifique, puisque il s'est retrouvé à New York, et ce qui n'était peut-être pas prévu au départ, et sa carrière, ses projets ont pris un tour nouveau. Mais je voudrais poser une autre question, une autre découverte que présente ce livre, à savoir le personnage de Dina Dreyfus et son rôle dans tout ça. Parce qu'ici, on découvre beaucoup de choses sur Dina, qui est un personnage un peu occulté. Juste une petite mention dans Triste Tropique, une ou deux, et là, on découvre beaucoup de choses.
On découvre beaucoup de choses. Alors, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, mais très rapidement, le Triste Tropique ne parle pas de Dina. Et donc, quand on lit Triste Tropique, on pense que Lévi-Strauss était solitaire. Il était allé en solitaire chez les Kadouvéo et les Bororo lors de la première expédition. Il est allé en solitaire lors de la deuxième expédition chez les Nambikwara et jusqu'en Amazonie. En fait, c'est totalement faux. Toute cette période de sa vie, il l'a partagée avec Dina. Et ils ont été dans une relation... C'est son épouse, donc une relation intime, bien entendu, mais aussi une relation professionnelle extrêmement rapprochée.
Ils ont travaillé par répartition des rôles.
Avec une répartition des rôles, mais aussi une confusion, une collaboration effective. Il y a aucun doute là-dessus. Ils travaillaient vraiment ensemble. Ils étaient voilà. Alors quelques mots sur Dina, quand même, effectivement, qui était occultée. Donc Dina Dreyfus. Qui est une très 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 lointaine cousine de la famille, la fameuse famille Dreyfus dont le capitaine Dreyfus était issu. Nous avons rencontré donc le neveu de Dina, François Boyer, dans une longue conversation avec lui. Il nous a attesté qu'effectivement, probablement, l'ancêtre commun serait quelque part un Alsacien du début du 18e siècle, donc ça remonte à très très loin. Donc Dina Dreyfus est la fille de Gaston Dreyfus. Gaston Dreyfus était un ingénieur électronique. On parlait pas encore d'électronique à l'époque, qui s'occupait de reproduction sonore dans la fin du 19e siècle et qui devient donc le représentant pour la France de la compagnie Pathé Marconi et qui s'installe en Italie. Il s'installe en Italie et il se tombe amoureux d'une Italienne, voilà. Et donc il donne, qui était elle-même une très jeune veuve qui a déjà une fille. Et Gaston et sa jeune épouse vont avoir encore deux filles, Dina et une autre fille. Donc Dina est au milieu de cette fratrie de filles. Elle comme le dit Christiane Ménasser, qui était une exécutrice testamentaire et qui a écrit une petite introduction d'un recueil des textes de Dina. Peut-être que Dina a été aussi un peu marquée dans son enfance par l'émergence du fascisme en Italie. Toujours est-il qu'elle se retrouve dans les années 20 à Paris, 16e arrondissement, et elle rencontre Lévi-Strauss comme militante socialiste dans la section du 16e arrondissement.
Qui voilà. Est déjà agrégé lui-même.
Lui vient de passer l'agrégation.
Et elle va la passer quelques temps plus tard.
Elle va la passer 2 ans plus tard. Ils ont presque le même âge, il y a 2 ans d'écart, je crois, entre eux. Donc c'est un jeune couple. Voilà. Et lui-même, il se marie. Bon, ça, c'est des choses qui étaient relativement connues. Hein. Il s'installe à Mont-de-Marsan parce que c'est son premier poste d'agrégé de philosophie. C'est là où, sous sa direction, Dina Bachot est avec succès pour elle-même devenir agrégée. Et elle devient professeure, je crois, au lycée de Reims. Enfin bref, très rapidement. Et puis très rapidement, le couple Lévi-Strauss est appelé au Brésil. Dina part avec lui et donc renonce à son poste. Une anecdote amusante, c'est que Dina, le père de Dina, donc Dina a été probablement élevée dans un milieu assez aisé. Voilà, le père de que ça soit en Italie ou lorsqu'ils sont rentrés en France, je pense qu'ils avaient un niveau de vie assez élevé, alors que celui de la famille de Lévi-Strauss, c'est ça, il a toujours dit, était un peu plus chiche, un peu plus. Donc il y a un petit décalage, disons, de ce qu'on pourrait appeler en termes brodusiens d'habitus entre les deux membres du couple, mais malheureusement. L'aisance de la famille d'origine de Dina va s'éroder très très vite parce que Gaston Dreyfus était joueur et jouait aux courses de chevaux et nous a dit François Boyer, eh bien sa fortune a vite fondu comme neige au soleil sur les champs de course. Donc Dina, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est frappant, c'est que là, on a des documents, on a des photos et on les reproduit. Il y a toute une très belle biographie.
Il y a effectivement toute une série aussi de photographies de famille, en quelque sorte.
Exactement.
Claude et Dina Lévi-Strauss, et ensemble, dans les différentes situations. Donc, c'est aussi une histoire personnelle qui était assez méconnue et qu'on découvre ici. Mais ce que je voulais savoir, c'est que elle avait des rôles. Elle a contribué à cette expédition. Elle a contribué au travail. Elle a fait son journal, qui a beaucoup servi.
Et moi, je dirais même plus. Je veux dire, je pense que lorsqu'il débarque au Brésil, il loue une grande maison. Je pense qu'elle avait un rôle de femme mondaine. Et elle a probablement favorisé, en quelque sorte, la catalysation d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Elle a été tout de suite, elle a œuvré pour créer une société d'études du folklore, dont avec Mario Andrades, qui était une espèce de shooting star de la scène intellectuelle de Sao Paulo. On voit aussi des photos. Dans cette grande maison, on pourrait dire c'est un peu la vie aux colonies, c'était pas la colonie, mais enfin c'est un peu le, comment dire aujourd'hui, la vie d'expat, assez aisée, assez facile. Ils invitent les parents de Lévi-Strauss viennent passer du temps avec eux. On voit des photos vraiment de l'intimité familiale où on voit la mère de Lévi-Strauss et Dina côte à côte sur une table faisant des œuvres de couture ensemble, travaillant tout ça. On voit d'autres photos. Nourrir une petite guenon ensemble. On voit d'autres photos aussi. On voit qu'elle est très élégante. Apporte des bijoux de très bon goût, donc on voit quand même la femme mondaine. Et d'un autre côté, on voit aussi des photos d'elle en brousse, puisqu'elle participe aux expéditions. Donc on la voit avec son treillis, montée à cheval, toujours très élégante dans toutes circonstances. Donc on voit une femme déjà qui affirme une personnalité très forte, avec pour arrière-fond une éducation bourgeoise assumée en quelque sorte. Et ça, c'est ce qui rend le personnage très sympathique. Ajoutons que c'est une très belle femme. Et on voit aussi, on a retrouvé dans les archives un certain nombre qui ont été déposés à la BNF, un certain nombre d'articles publiés au Brésil à l'époque où elle ne renonce pas, où elle et lui ne renoncent pas à faire un peu l'objet d'articles de journaux assez élogiateurs sur des anthropologues français, le couple d'anthropologues français qui va à la rencontre des sauvages, etc. etc. Donc elle n'est pas tout à fait sensible aussi à une dimension un peu glamour, je dirais, pour employer un anglicisme de sa vie au Brésil à ce moment-là. Évidemment, tout ça va se fracasser avec la guerre.
Il y a aussi une autre découverte dans ce livre qui est frappante, à savoir c'est que tant Dina que Claude avaient à cette époque-là des ambitions littéraires. Ils esquissaient tous les deux l'un et l'autre de chacun de son côté, projet d'un roman. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus?
Alors, je vais être très prudent là-dessus, sur deux choses. Je suis pas sûr tout à fait que Dina voulait écrire un roman. Mais je suis sûr que Lévi-Strauss voulait le faire. Ça, c'est bien attesté. D'abord, il l'a dit lui-même. Donc, de ce point de vue-là, on a de nombreuses traces de ce désir d'écrire un roman. Le roman que Lévi-Strauss avait en tête, ça aurait été l'histoire d'un couple exilé dans un pays tropical, au mode de vie assez confortable pour eux, mais qui sont justement confrontés à la misère du pays et qui auraient été un peu déchirés entre leur engagement social et leur statut, mais on n'a pas beaucoup d'éléments, on a quelques éléments. Il y avait d'ailleurs on a trouvé quelques petites notations sur les différents personnages de ce roman, et la belle-mère jouait un rôle très important de l'héroïne. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a trouvé une page qui a été pratiquement reprise texto dans Triste Tropique, mais à peine modifiée, où la narratrice décrit un paysage et son voyage avec son amant ou son ami et la narratrice et tout ça. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce texte est probablement écrit par Lévi-Strauss lui-même, puisqu'il l'a repris pratiquement de la même façon dans Triste Tropique. Et il a imaginé probablement d'écrire un roman à plusieurs voix, dont il y aurait eu un narrateur, une narratrice. On peut penser cela, il y a quelques indices qui va dans cette direction. Le roman que voulait écrire, que Dina dans son journal dit vouloir écrire, est moins clair. Il est plutôt beaucoup plus autobiographique, c'est-à-dire qu'il y aurait une héroïne qui s'appelle Inès, qui ressemble à une transformation de Dina, qui se sent un peu éloignée de son mari, qui a un peu des états d'âme d'ordre conjugaux, intime. C'est un peu vague. Donc là, il faut pas trop spéculer. Il y a deux hypothèses qui sont très claires. Ou bien le couple était en compétition littéraire, en quelque sorte, ou bien Dina, c'est moi personnellement mon hypothèse plutôt, écrivait dans son journal intime, dont elle souhaitait que Lévi-Strauss fasse la lecture, tôt ou tard, un double d'elle-même, qu'elle romancerait en quelque sorte pour un peu faire comprendre à son mari un certain nombre de choses qui dans leur couple, créent des difficultés.
Donc, au fond, c'était aussi peut-être un projet qui s'adressait à leur couple.
Oui, je pense que c'était un projet qui s'adressait à leur couple plutôt qu'une ambition littéraire propre de Dina. Mais là, c'est ouvert à l'interprétation.
Deux autres questions brèves, parce que le temps passe. La première, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que ça vaut le coup toujours de lire Triste Tropique à partir du moment où on a tout ça, comment vous situez ce livre par rapport à l'ouvrage lui-même de Claude Lévi-Strauss?
Écoutez, moi je pense que très clairement, ce livre est une introduction contemporaine à Triste Tropique. Triste Tropique a un peu vieilli. Comme on l'explique d'ailleurs, Triste Tropique a été écrit en partie sous le... C'est un livre un peu d'obédience de la géographie à la française, c'est-à-dire les hommes et leur activité. Il y a ce fond littéraire qui était très, très puissant à l'époque. Hein. Les livres de voyage étaient à la fois des livres un peu de réflexion, de description, de méditation sur la diversité des paysages et la diversité des cultures. Donc il y a quelque part cette dimension dans Triste Tropique, et dimension qui a un peu vieilli pour nous aujourd'hui, qui parle moins aux jeunes générations. Le style de Lévi-Strauss, c'est pas du Houellebecq, hein, c'est quand même plus riche, c'est plus complexe, c'est plus dense. Là encore, peut-être que pour les jeunes générations, il paraît moins attrayant qu'il a pu le paraître à une certaine époque, où lorsque le livre est paru, tous les critiques étaient absolument enthousiastes sur son style. Lui-même a bien rappelé que son style tenait de Chateaubriand, Et il a omis de rappeler qu'il tenait aussi de Céline, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ce Tropique reste un livre formidable, mais je pense que peut-être que ce livre-là est une introduction, permet de mieux lire Triste Tropique, de mieux aborder en quelque sorte Triste Tropique, en donnant un certain nombre de clés qui étaient restées un peu obscures et qui permet de mieux comprendre et de mieux suivre la lecture.
Donc c'est aussi un outil didactique finalement pour ceux qui voudraient s'élancer dans l'étude des tropiques.
C'est un outil didactique, exactement. Si j'avais un conseil à donner, je dirais aux parents, aux gens qui, de mon âge et un peu plus jeunes, qui ont été emballés par Triste Tropique dans leur jeunesse et qui aujourd'hui voient leurs enfants tordre un peu du nez, je leur dirais, offrez-leur ce livre avec Triste Tropique et vous allez voir qu'ils vont comprendre de quoi il s'agit et ils vont apprécier.
Une dernière question rapide. Donc, on a parlé de ce projet de roman de Claude Lévi-Strauss, dont on a trouvé des traces dans ses archives. Est-ce qu'on connaît le titre de ce projet de roman ?
Lévi-Strauss l'a dit lui-même, alors il n'y a pas de mystère. Le roman aurait dû s'appeler Triste Tropique. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Voilà, merci.
Voilà, merci. Merci pour cette discussion à bâton rompu autour de ce livre, le nôtre et celui de Lévi-Strauss. Et aussi, je crois, surtout, ce qui est vraiment important, la figure de Dina, qui est très, très attachante.
Et qui est une découverte.
Et qui est une découverte grâce à ce travail.